Radio Osmose en direct du Novotel Centre à Avignon, proche de la gare, dans le cadre du festival OFF 2024. Et nous accueillons les troupes, les artistes à cette occasion. Et devant moi, j'ai Marie-Odile Weiss.
Voilà, Weiss. Voilà, Marie-Odile Weiss.
Oui, voyez,
voilà.
Mais ça là. Weiss. Et donc, vous allez nous présenter, qui a d'ailleurs commencé déjà depuis trois jours.
On a commencé depuis le 29. Mm-hmm. Donc, je vous présente un seul en scène, mon seul en scène en tongue au pied de l'Himalaya, donc qui est mise en scène par Julie Bargeton. Guillaume Gordon qui a fait les lumières et que l'on joue au théâtre du Chêne Noir tous les jours à 14h15, salle John Coltrane. Relâche les. Vous l'avez sur votre petit papier ?
Est-ce que alors, vous suivez ? Relâche.
Les lundis.
Les lundis. Voilà. Et donc, c'est tous les jours à 14h15.
Voilà, hein, exactement.
Ça. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quelle énergie ! Quelle énergie !
Ah bah c'est gentil, merci.
Et je peux en parler du spectacle puisque je suis allée le voir. Et d'énergie, ben voilà, c'est extraordinaire. Racontez-nous un petit peu l'histoire de En tongue au pied de l'Himalaya. C'est une métaphore, mais
voilà. Et bah, exactement, je vais commencer par le titre. Alors oui. Déjà, alors En tongue au pied de l'Himalaya, pourquoi ? C'est que quand notre fils a été diagnostiqué avec un TSA, donc un trouble du spectre autistique, moi, il se trouve que j'y connaissais genre rien. Du tout.
Comme
du
beaucoup.
Tout,
hein.
Du tout. Comme beaucoup, mais ouais. Moi particulièrement, je pense. Vraiment, je n'y connaissais rien. Et du coup, j'ai vraiment eu l'impression d'être en tongue au pied de l'Himalaya.
Voilà, vous n'avez pas choisi la plus petite montagne.
Hein. Non. Et non, je n'ai pas choisi parce que ce n'était pas le plus petit des combats. Et ce spectacle aussi, ce qui est... alors, vous l'avez vu, je crois qu'il est rempli quand même de lumière et pourtant, il part d'un mouvement de colère. En fait, quand mon fils avait 2 ans et demi, il était donc en maternelle et sa prof de maternelle nous a dit qu'il ne pourrait pas faire le spectacle de fin d'année. Mmh. Et alors, cette petite chose hein, qui est pas grand-chose par rapport à toutes les injustices... Hein, que subissent les enfants qui ont un handicap. Moi, cette petite chose, elle m'avait complètement mis par terre. Mmh. Et du coup, j'étais rentrée chez moi et je m'étais mise sur mon ordi et j'avais commencé à écrire un paragraphe bien cinglant sur elle. Et ça m'avait fait vachement de bien. Du coup, bah, voilà, je me suis dit, ah, tiens, c'est pas mal comme truc. Donc, j'ai écrit comme ça des... alors, que ce soit des tristesses, mais aussi des joies et puis des remises en question comme ça de mon quotidien. Ça a donné la...
Ouais. Voilà. Je vous interroge juste une petite seconde, c'est pour parler justement de cette joie, de ces petites lumières et qui sont très présentes dans votre spectacle et notamment quand vous parlez de la joie, des petites choses.
Voilà. Hein.
J'avais bien noté, à un moment donné, vous parlez d'une petite chose quand vous le voyez.
Exactement, c'est ça, c'est la joie des toutes petites choses. Parce qu'en fait, il y a des... dans le TSA, souvent, donc, les enfants, en fait... Les choses qui paraissent complètement anodines pour d'autres, par exemple tenir un crayon, et ben là c'est pas du tout quelque chose d'inné, c'est-à-dire qu'il va vraiment falloir lui apprendre et ça va être beaucoup plus fastidieux. Et du coup le moment où après des mois et des mois ton enfant il sait tout d'un coup tenir un stylo et faire un petit début de rond, c'est une joie absolue.
Ce que vous décrivez, en fait, c'est que les parents qui ont des enfants autistes, c'est qu'ils aient cette patience-là pour générer de la joie, en fait, lorsque l'enfant arrive à réaliser quelque chose qui paraissait de l'ordre de l'impossible.
Voilà, exactement. C'est ça. Et puis, c'est les enfants aussi qui sont courageux et qui arrivent à se dépasser. Alors après, il y a des méthodes hein, pour ça. On est... il y a des méthodes et puis des professionnels de santé qui sont très bien en France.
Ouais. Et quand vous dites courageux, c'est pourquoi vous dites courageux ?
Non, mais parce que c'est très coûteux pour un. En fait, les enfants qui ont un TSA, alors ça dépend. Je vais pas faire de généralité, surtout que chaque autisme est vraiment différent. Oui. Donc voilà. Mais pour eux, justement, comme il y a souvent des problèmes de sensorialité, justement des problèmes de motricité fine ou ça, chaque petite chose, c'est beaucoup plus fastidieux à faire que pour d'autres enfants. Mais du coup, pour eux, il faut être. Enfin, ça leur demande énormément de courage.
Et le regard de l'autre. Peut-être aussi du courage par rapport au regard des autres.
Oui, alors je
de vivre en société et tout ça.
Oui, mais je pense que les enfants, ça là-dessus, je pense que c'est plus, en tout cas au début, c'est plus les parents qui s'en rendent compte que les enfants. Ah. Et après, évidemment, les enfants vont s'en rendre compte, mais je crois que justement, le regard de l'autre, évidemment, il est très présent. Et quand ils arrivent en maternelle, il y a le regard des autres enfants. Mais je crois que aussi, c'est les parents qui... oui. Qui eux sont sensibles à ça.
Mmh, peut-être c'est important de faire passer ce message aussi que c'est bah les parents, moi, puis que leur enfant est différent dans la perception bah, en fait.
En tout cas, moi, c'est sûr que ce spectacle, il y a évidemment une des grandes raisons pour lesquelles je le fais, c'est justement à l'intérieur. Vous avez vu, je mets des petites clés, des petites choses pour familiariser les gens avec l'autisme et la neuroatypie en général. Et évidemment que ce spectacle, pour moi, le but, c'est un peu de... Alors, c'est très cliché de dire ça, mais de casser un peu les clichés, parce que il en existe encore beaucoup et il y a encore énormément de progrès à faire en France sur la prise en charge des enfants avec un trouble du spectre autistique et sur l'accompagnement vers l'emploi des adultes, parce qu'il y a plein d'adultes autistes qui peuvent travailler, qui ont des compétences et capacités, mais en France, on a encore beaucoup de travail à faire là-dessus.
En fait, c'est de garder espoir quand même aussi.
Complètement, c'est de garder espoir. Moi, je suis assez positive de manière générale et j'ai de l'espoir. Et c'est aussi pour ça que je monte sur scène aussi.
Donc, gravir l'Himalaya, ça vaut le coup parce qu'il peut avoir de très, très, très belles choses.
Exactement. Moi, mon fils, il a fait des progrès énormes. Hein, donc voilà, évidemment qu'il y a... Il y a des capacités de progression qui sont énormes. L'important, c'est... parce que alors la neuroatypie, vous savez ce que c'est la neuroatypie ? Enfin, j'explique pour ceux qui ne savent pas, je le dis depuis tout à l'heure. Neuroatypie, en fait, on parle de neurodiversité. En fait, c'est différentes manières... c'est des personnes qui ont différentes manières de penser. Voilà. Oui. Et donc les neurotypiques, c'est ceux qui ont une manière de penser qui est dans la norme. Et les neuroatypiques, c'est une manière de penser différente. Mais différente, ça ne veut pas dire moins bien. Et donc dans ce grand truc de la neuroatypie, donc il y a le trouble du spectre autistique, mais on a aussi les troubles dyslexiques, on a aussi le TDAH, le trouble de l'hyperactivité.
Oui, c'est très vaste.
Voilà, c'est très vaste. Oui. Et ce qui est très important là-dedans, donc c'est différent, mais ça ne veut pas dire que c'est moins bien, parce que justement, les gens, souvent, les personnes qui ont une neuroatypie, elles ont des spécificités que les neurotypiques n'ont pas. Et quand on a un enfant, quand on s'occupe d'un enfant neuroatypique, justement, ce qui est souvent le truc à faire, c'est de, justement, au lieu de se concentrer sur le négatif, se concentrer sur le positif, donc les spécificités qu'ils ont, alors, pour les faire progresser.
Justement, voilà. Alors peut-être qu'un des messages, c'est de dire que des différences, c'est pas une différence en soi, c'est une richesse en fait.
Exactement, c'est une différence parce que là, on est dans la France, enfin dans beaucoup de pays, on est dans quelque chose qui est très normalisé, et que tout doit être à sa place, etc. Voilà.
Et que c'est pas parce qu'on est différent qu'on est moins bien ou qu'on est mieux ou qu'on est ça. Donc je pense que peut-être, est-ce que c'est le message que vous auriez à...
C'est carrément le message que je fais passer, c'est que la différence, au contraire, évidemment que c'est une richesse absolue.
Mais oui, parce qu'un autiste, il apporte beaucoup de choses, justement, peut-être la patience, l'écoute, peut-être que les parents seraient moins attentifs à leur enfant, etc.
Moi, je sais que, je le dis d'ailleurs dans le spectacle, mais moi, avant d'avoir mon fils, j'étais beaucoup plus sur moi, j'étais beaucoup plus égoïste.
vous étiez différente.
Complètement, il m'a totalement il m'a ouvert aux autres, c'est un peu sur ça, mais c'est vrai, vraiment, moi j'ai appris énormément à son contact.
C'est magnifique. Voilà. En tout cas, en tongue, au pied de l'Himalaya, c'est un spectacle fabuleux, merveilleux. Et vous entendez l'énergie de Marie-Odile Weiss, qui est sur scène et vous la transmet, vous la donne. Et c'est donc au
Théâtre du Chêne Noir. Voilà, à 14h15.
14h15.
Du 29 juin au 21 juillet. Salle John Coltrane, relâche les lundis. Et c'est mis en scène par Julie Bargeton. Voilà. Les Lumières, Guillaume Gandon. Mmh. Voilà.
Tout y est.
Voilà, tout y est. Et merci beaucoup.
Et ça dure une heure.
Ça dure 1h05 à peu près.
Très bien. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite un bon festival et beaucoup de succès.
Merci d'être venu.
Et à bientôt.
Et merci. Au revoir. À bientôt.
Au revoir.